Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire en cette matinée du jeudi 22 août.
Tout d'abord, merci à la vice-présidente Kamala. Merci de placer ta confiance en moi et de m'inviter à faire partie de cette incroyable campagne. C'est l'honneur de ma vie d'accepter votre nomination pour la vice-présidence des États-Unis.
Tim Walz, le coulissier de Kamala, désormais officiellement candidat démocrate à la vice-présidente des États-Unis, il a accepté sa nomination lors du jour 3 de la Convention nationale démocrate à Chicago. Les premières élections législatives au Tchad depuis 2011 doivent se tenir le 29 décembre prochain. Annonce faite par le président de la commission électorale au Kenya, 5 policiers soupçonnés de complicité dans l'évasion d'un tueur en série présumé, toujours recherché, ont comparu hier devant un tribunal de Nairobi au Burkina Faso. La presse traverse une période difficile à cause des contextes politiques et économiques.
Aujourd'hui, un journaliste doit traiter une question, notamment des questions en lien avec la situation sécuritaire. On se pose vraiment mille et une questions. On risque quand même de se faire traiter de antivirus d'apartheid ou de ne pas aimer le régime ou de ne pas aimer quelqu'un.
Reportage à suivre dans la partie magazine de cette édition. En sport, Manuel Neuer, le portier allemand du Bayern Munich, a pris sa retraite internationale. Davantage dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. Direction Chicago pour la troisième soirée de la Convention nationale des démocrates. Cette nuit, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a officiellement accepté d'être le coulissier de Kamala Harris pour la présidentielle de novembre. Dans un discours, il est revenu sur son parcours et a attaqué le ticket Trump-Vance de Chicago, la correspondance de notre envoyé spécial Dilly Dico.
Tim Walz a déclaré dès le début de son discours « C'est l'honneur de ma vie d'accepter votre nomination pour la vice-présidence des États-Unis ». Le gouverneur du Minnesota a parlé de son parcours, ancien membre de la garde nationale, enseignant, coach de football américain, passionné de chasse, mais aussi activiste pour plus de régulation autour des armes à feu et l'accès aux soins contre l'infertilité, un combat personnel pour sa famille. Dans son discours très énergique, Tim Walz a promis que Kamala Harris va faire baisser les taxes, faciliter l'accès au logement, réduire les prix des médicaments. La célèbre animatrice télé Oprah Winfrey a appelé les indépendants et les indécis à voter en faisant usage de leur bon sens pour choisir la décence et le respect le 5 novembre. Le gouverneur du Maryland, Wes Moore, une figure montante du Parti démocrate, vétéran de l'armée, a fait un plaidoyer pour une Amérique inclusive, rappelant qu'il reste moins de 70 jours pour élire Kamala Harris. Des figures emblématiques du Parti démocrate comme Nancy Pelosi et l'ancien président Bill Clinton ont également pris la parole. Bill Clinton, pour sa 12e convention démocrate, s'est adressé à la salle et aux Américains pour dire qu'il faut s'unir pour battre Donald Trump. Aujourd'hui, pour la 4e et dernière journée de la convention démocrate, Kamala Harris acceptera sa nomination en tant que candidate démocrate à la présidentielle.
De son côté, le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, qui tenait un meeting dans l'État-clé de Caroline du Nord, a accusé sa rivale Kamala Harris d'être la personne la plus radicalement à gauche à s'être lancée dans la course présidentielle. « Vos économies d'une vie vont totalement se volatiliser », a déclaré à la foule Trump. Il s'agissait du premier événement de campagne majeure à l'air libre de Donald Trump depuis qu'il a été blessé par un tireur de 20 ans lors des rassemblements organisés à Bootley en Pennsylvanie à la mi-juillet. Au Tchad, les élections législatives doivent se tenir le 29 décembre prochain. C'est ce qu'a annoncé le président de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE, Ahmed Bachiret, 8 mois après l'élection présidentielle qui a mis fin à 3 ans de transition. La dernière élection de l'Assemblée nationale a eu lieu en 2011. L'Assemblée devait être renouvelée en 2015 avant d'être prolongée par une loi constitutionnelle et l'échéance électorale repoussée en raison de la menace djihadiste puis des difficultés financières, de l'épidémie de coronavirus et enfin de la période de transition. En Côte d'Ivoire, le tribunal de première instance d'Abidjan a condamné hier Kando Soumaoro, cadre de Génération Peuple et Peuple Solidaire, à 24 mois de prison ferme pour maintien illégal d'un parti politique. La Cour lui reproche d'avoir signé début août au nom de ce mouvement politique de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, aujourd'hui en exil, une déclaration conjointe de partis d'opposition qui appelle à une refonte du système électoral un an avant l'élection présidentielle. Dans le nord-ouest du Nigeria, des hommes armés ont tué un influent chef traditionnel qu'ils avaient enlevé 3 semaines plus tôt en raison d'un retard dans le paiement de sa rançon. C'est ce qu'a déclaré un responsable du palais de la victime. Issa Bawa, l'émir de Gobir dans l'état de Sokoto, a été enlevé avec son fils alors qu'il se rendait dans sa ville natale de Sabon Beni. Il a été abattu par ses ravisseurs mardi alors que les négociations étaient en cours pour payer la rançon qu'ils exigeaient, a déclaré Shuaibu Gwanda Gobir, membre du conseil qui choisit les rois dans l'émirat de Gobir. Au Kenya, 5 policiers ont comparu mercredi devant un tribunal de la capitale Nairobi au lendemain de leur placement en garde à vue. Ils sont soupçonnés de complicité dans l'évasion d'un tueur en série présumé toujours recherché. Mohamedou Oumfa.
Le tribunal donnera ce jeudi sa décision sur le maintien en détention des 5 policiers, 4 hommes et une femme, qui étaient en service au commissariat au moment de l'évasion. 3 autres personnes ont été placées en garde à vue mardi, mais aucune information n'était disponible sur une éventuelle comparution. Lors de l'audience, le procureur a affirmé que d'autres complices étaient toujours en fuite, sans plus de détails. Nos enquêtes préliminaires indiquent que l'évasion a été facilitée par des complicités, étant donné que des officiers de police étaient déployés en nombre pour garder le commissariat, avait déclaré mardi le chef de la police par intérim, Gilbert Massengeli, dans un communiqué. Soupçonné du meurtre de dizaines de femmes, Collins Jumessi, 33 ans, s'est évadé d'un commissariat dans la nuit de lundi à mardi avec 12 autres personnes, des Érythréens en situation irrégulière. Il avait été arrêté le 15 juillet, quelques jours après la découverte de corps enfermés dans des sacs dans une décharge du bidon de Mukuru dans le sud de Nairobi.
La Somalie menace de suspendre les vols d'Ethiopian Airlines à destination du pays en raison d'une querelle de souveraineté. C'est le dernier acte en date d'un différend concernant la région sécessionniste du Somaliland. Alexandrine Holoyon.
Dans une lettre, l'autorité somalienne de l'aviation civile, SCAA, a estimé que la compagnie publique Ethiopian Airlines, la plus grande en Afrique, n'avait pas répondu aux plaintes somaliennes sur les questions de souveraineté en lien avec le Somaliland non reconnu par Mogadiscio. La SCAA menace de suspendre tous les vols d'Ethiopian Airlines à destination de la Somalie si les problèmes ne sont pas résolus d'ici le 23 août. Une autre lettre a été adressée à la compagnie publique des Émirats Arabes Unis Fly Dubai. L'aviation civile somalienne précise que la compagnie doit traiter de graves violations et proposer une représentation des destinations précises en Somalie dans ses services de réservation de billets. Ces lettres font suite à des pourparlers indirects entre la Somalie et l'Éthiopie, coordonnés par la Turquie, dont le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a fait état de progrès notables au début du mois. Addis Abeba a signé cette année un protocole d'accord qui prévoit l'allocation pour 50 ans à l'Éthiopie de 20 km de côte de la région séparatiste du Somaliland sur le golfe d'Aden, suscitant l'ire de Mogadiscio.
En Tunisie, Safi Saïd, un opposant qui avait annoncé sa candidature à la présidentielle avant d'y renoncer, a été arrêté mardi pour avoir franchi illégalement la frontière vers l'Algérie. Claire Morin-Gibault.
Le tribunal de Kasserine a ordonné le placement en détention du militant politique Safi Saïd et d'un accompagnateur pour avoir illégalement traversé la frontière vers un pays voisin, a indiqué son porte-parole hier à des médias locaux. Âgé de 70 ans, l'ancien député et écrivain a été condamné en juin à 4 mois de détention pour avoir falsifié des parrainages pour déposer sa candidature à la présidentielle en 2014. Le 9 août dernier, Safi Saïd avait renoncé à sa candidature, dénonçant de grands obstacles et un manque de clarté des règles du jeu. Mardi, l'ONG Human Rights Watch a souligné qu'au moins 8 candidats potentiels ont été poursuivis en justice, condamnés ou emprisonnés, et de facto ont été empêchés de se présenter. La Tunisie se prépare à tenir une présidentielle dans un contexte de répression croissante de la dissidence et de la liberté d'expression et en l'absence de contrôle vitaux des pouvoirs du président Saïd, a ajouté l'ONG. Le président Kais Saïd est accusé de dérive autoritaire depuis un coup de force le 25 juillet 2021 par lequel il s'est octroyé tous les pouvoirs.
Dans le reste de l'actualité, le président Joe Biden a souligné l'urgence de finaliser un accord sur un cessez-le-feu et une libération des otages dans la bande de Gaza. C'était au cours d'un échange hier avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, selon la Maison-Blanche. La conversation a aussi porté sur les discussions à venir au Caire pour écarter les obstacles qui restent avant d'arriver à un compromis entre Israël et le Hamas, selon le communiqué. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Alexandrine Rollignon.
Le Niger reprend ses exportations de pétrole via le Bénin après une suspension. Un agent de la West African Gas Pipeline Company, WAPCO, qui exploite l'oléoduc, a déclaré à Reuters qu'un pétrolier battant pavillon libérien avait chargé environ 1 million de barils de pétrole en provenance du Niger dans le port du Bénin mardi. Le différend entre les deux pays portait sur le refus du Niger de rouvrir ses frontières avec le Bénin après la levée des sanctions de la CEDEAO contre Niamey, ce qui a conduit son voisin côtier à bloquer les exportations via l'oléoduc soutenu par PetroChina en mai. L'euro au plus haut depuis un an face au dollar. Le dollar perd du terrain mercredi, poussant l'euro jusqu'à un sommet depuis juillet 2023 face au biais vert, sous l'impulsion des attentes de baisse des taux de la réserve fédérale américaine. Vers 16h25 GMT, le dollar perdait 0,15% face à la monnaie unique à 1,1147 $ pour 1 euro. L'Australie annonce vouloir construire la plus grande centrale solaire au monde, connue sous le nom de Sun Cable. Ce projet sur 12 000 hectares est situé dans le territoire du Nord et chiffré à 21 milliards d'euros. Cette centrale solaire doit commencer à produire de l'énergie en 2030.
Pour la page sportive de ce journal, retrouvons Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yakuba.
Football pour commencer en Allemagne, Manuel Neuer met un terme à sa carrière internationale.
À 38 ans, le gardien de but et ancien capitaine de la sélection a décidé mercredi de s'arrêter avec la sélection allemande, la fin de 15 années sous le maillot de la Mannschaft, pour une légende qui a révolutionné le poste de gardien de but dans les années 2010. C'est dans une vidéo d'un peu moins de 2 minutes publiée sur son compte Instagram que le portier a tiré sa révérence avec la sélection allemande, apposant le mot « fin » à une histoire débutée 15 ans plus tôt. Chers fans, ce jour devait bien arriver à un moment et aujourd'hui, ma carrière avec la National Mannschaft prend fin. Tous ceux qui me connaissent savent que ça n'a pas été une décision facile à prendre, a expliqué Manuel Neuer, vêtu d'un t-shirt noir sur fond noir et avec le drapeau allemand. Champion du monde en 2014, son 124e et dernier match avec la Mannschaft s'est déroulé à Stuttgart le 5 juillet, un quart de finale de l'Euro 2024, perdu au bout de la prolongation contre l'Espagne. Ces dernières années, le portier avait connu de graves blessures qui l'ont éloigné de très longs mois des pelouses.
Athlétisme à Lausanne, lendemain de fête pour Tebogo et Samba Mayela.
12 jours seulement après les ultimes tours de piste olympique au Stade de France, le Botswanais Letsile Tebogo, devenu le premier Africain sacré sur 200 mètres, et Sirena Samba Mayela, médaillé d'argent du 100 mètres, et rechausse déjà les pointes au meeting de Ligue de Diamants de Lausanne en Suisse jeudi. Dès mercredi soir, Mondo Duplantis, auréolé de son rarissime doublé olympique à la perche et de ses 6,25 m, son 9e record du monde à 24 ans, s'est lancé sur le sautoir éphémère posé sur la rive généreusement ensoleillée du lac Léman.
Et puis des nouvelles des Jeux paralympiques, les premiers athlètes débarquent au village olympique.
Le village des athlètes a repris vie mercredi au nord de Paris avec l'arrivée des premiers sportifs qui participeront aux Jeux paralympiques à partir du 28 août, l'occasion pour eux de changer le regard sur le handicap. Des centaines d'athlètes sont arrivés mercredi dans ce village qui a été remis à neuf pour les accueillir après les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, c'est bien, mais les Jeux paralympiques, c'est mieux car les athlètes ont des histoires difficiles. Ça va être du grand spectacle, promet un sportif qui se déplace en fauteuil roulant.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouédraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. La recrudescence de Mpox en République démocratique du Congo, mais aussi les cas au Burundi, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda, ont incité l'OMS à décréter le 14 août une urgence de santé publique de portée internationale, l'alerte sanitaire le plus élevée. Les experts affirment que cette recrudescence expose les personnes les plus vulnérables de la planète. Selon l'UNICEF, les enfants courent un risque important et le nouveau variant ajoute un fardeau supplémentaire aux familles déjà impactées par les conflits. Le récit est de Claire Morin-Gibault.
Justine Mungiko ne se souvient pas du nom de la maladie dont on l'avait avertie, mais elle raconte combien son bébé a souffert lorsque des plaies sont apparues sur ses pieds et ses mains, comme d'autres enfants, dans le camp de déplacés près de la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les communautés comme celle de Justine Mungiko sont parmi les plus exposées et ont besoin de soutien. Elle et d'autres mères du camp ont décidé de traiter leur enfant selon la méthode traditionnelle contre la fièvre et les éruptions cutanées en les lavant dans de l'eau salée bouillie et en frottant leur peau avec des feuilles de la plante Kitamatama.
Cette maladie avec ses lésions cutanées vient de je ne sais où. Je ne me souviens même pas du nom de la maladie. On nous a dit qu'elle apparaissait après avoir mangé du gibier, mais ni moi ni mon enfant n'avons mangé du gibier. Ces symptômes sont apparus tout seuls.
Alors que la communauté internationale s'efforce de trouver suffisamment de vaccins, l'expérience de Justine Mungiko met en évidence la quantité de travail à accomplir pour s'assurer que les personnes les plus vulnérables en RDC et ailleurs disposent des connaissances et des ressources nécessaires pour se protéger contre une infection virale généralement bénigne, mais qui peut être mortelle. Selon des experts, communiquer avec ces populations sur des conseils de prévention est essentiel.
Docteur Ebere Okereke du programme de santé mondiale Chatham House.
Nous devons transmettre les bonnes informations aux personnes qui sont en danger immédiat ainsi qu'à celles qui sont susceptibles de paniquer. Il est essentiel de communiquer avec les gens sur ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent signaler et comment ils doivent le faire pour que nous puissions comprendre ce qui se passe plus rapidement et mieux le contenir. Mais à long terme, pour ne pas avoir la même conversation l'année prochaine et l'année suivante, nous devons nous demander comment nous définissons les urgences de santé publique de portée internationale.
Depuis le début de l'épidémie actuelle, en janvier 2023, la RDC a enregistré environ 27 000 cas et plus de 1100 décès, principalement chez les enfants. Le virus s'est également propagé aux pays voisins. Lundi, au camp de Kanyaruchinya, les habitants se sont rassemblés pour écouter un agent de santé de l'organisation humanitaire MEDER leur expliquer comment éviter l'infection. Ils ont reçu un dépliant avec des images expliquant le risque d'un contact étroit avec des animaux ou des personnes infectées. Le défi à relever en RDC et dans d'autres pays africains est d'autant plus difficile à cause du manque de financement de la recherche.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Burkina Faso, la presse traverse une période difficile, une véritable crise qui a commencé à entraîner la fermeture de certains médias et ceux qui tiennent encore ont du mal à honorer les salaires. À Bodioulasso, le reportage d'Alidou Ouédraogo.
Nous nous sommes d'abord rendus au siège du journal Libération. Président de l'Association des professionnels de médias de l'Ouest et par ailleurs directeur de publication du journal Libération, Ahmed Zerbo nous parle de la principale difficulté de l'heure.
Avant, on parlait de la liberté de presse. Alors, les journalistes sont plus libres de dire ce qu'ils veulent. Alors, je pense que les journalistes doivent effectivement aller dans le sens de la vision des autorités actuelles. Donc aujourd'hui, il est très difficile pour un journaliste vraiment de s'exprimer librement, exprimer sa pensée comme il le veut.
Ouest-Info est un média en ligne bien connu dans le paysage médiatique. Aujourd'hui, il peine à apparaître. Madi Bazier en est le directeur de publication.
Aujourd'hui, quand un journaliste veut traiter une question, notamment des questions en lien avec la situation sécuritaire, on se pose vraiment mille et une questions. Est-ce qu'un homme ne peut pas traiter de l'antidéfi d'apartheid ou de ne pas aimer le régime ou ne pas aimer quelqu'un.
Aujourd'hui, Westinfo peine à payer ses travailleurs et c'est loin d'être un cas isolé.
Nous sommes dans un secteur un peu particulier, le secteur des médias aujourd'hui qui fonctionne beaucoup plus, comme vous le savez, sur la publicité, sur les publics reportages et autres. Et compte tenu de la situation du pays aujourd'hui, rares sont les entreprises aujourd'hui qui mènent des activités d'exercice de couverture médiatique.
Au titre des difficultés actuelles de la presse, Muntamu Kani, le directeur du journal L'Express du Faso, le seul quotidien de Bobo-Dioulasso, cite le système d'imposition des impôts.
Les entreprises de presse ne sont pas des entreprises, comme je l'ai dit, ordinaires. Ce ne sont pas des entreprises comme toutes autres entreprises. Mais malheureusement, nous sommes dans le même registre d'imposition. Une entreprise qui produit du ciment, une entreprise qui produit de la craie, une entreprise qui produit du papier. Et ça, c'est très compliqué, c'est très difficile.
À la rédaction du journal L'Express du Faso, les journalistes s'adaptent à un nouveau narratif, celui qui est en phase avec le contexte. Ali Konaté, chef de la rédaction.
La guerre informationnelle, elle est réelle. Il nous appartient d'adapter aussi notre narratif et comprendre que la situation est blessée. Et qu'il y a un certain nombre, effectivement, de libertés qui peuvent être menacées par cette situation que nous devons pouvoir comprendre.
À Bobo-Dioulasso, les médias sont en difficulté avec des journalistes ayant du mal à percevoir leur salaire, une situation qui pousse certains professionnels de médias à chercher un second boulot. Ali Douedraogo, Bobo-Dioulasso pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Nigeria, selon les statistiques de l'Agence nationale de lutte contre la drogue, plus de 14 millions de personnes utilisent de la drogue de manière abusive. Certains d'entre eux sont des enfants ou des adolescents. De Kano, le reportage d'Al-Hassan Bala, le récit est de Michel Joseph.
New Road, dans le quartier Sabongari de la ville de Kano, dans le nord du Nigeria, est un endroit où les adultes et de nombreux adolescents viennent fumer des drogues comme le cannabis ou inhaler des substances aussi connues sous le nom de gomme ou cholicho. Ibrahim Idriss, 13 ans, consomme du cannabis et une substance inhalée appelée cholution. Il a été admis dans un centre de réadaptation il y a 6 mois, mais il a replongé dans le monde de la drogue.
Je me plais ici. En fait, tout ce que vous voyez ici s'y plaise. Aucun d'entre nous ne peut quitter cet endroit. Même si vous nous amenez chez nos parents, nous devons revenir parce que nous aimons cet endroit.
Mais Kumatu, 11 ans, veut simplement retrouver sa famille.
Je veux que quelqu'un me ramène chez mes parents. Je suis sûr que même ma mère m'a oublié ou qu'elle pense que je suis mort maintenant. Je fume du cannabis.
Selon l'Agence nationale de lutte contre la drogue, plus de 14 millions de Nigérians consomment de la drogue, principalement le cannabis. Le manque de centres de désintoxication au Nigeria a incité Aboubakar Shuaibu Maitumaki, militant anti-drogue basé à Kano, à construire un centre privé destiné principalement aux toxicomanes mineurs. Ancien consommateur lui-même, Maitumaki explique pourquoi certains jeunes Nigérians se tournent vers la drogue.
La principale raison pour laquelle les toxicomanes nigérians retombent dans la drogue est double. La première est le manque de conseils et de formation de la part des parents. Et la deuxième est la pauvreté dans de nombreux foyers.
Les deux fils de Mohamed Awal Imrana, âgés de 16 et 18 ans, sont des toxicomanes. Selon lui, les parents ne doivent pas abandonner leurs enfants à la drogue, mais continuer à essayer de les aider.
J'ai deux fils toxicomanes. Je les ai rapprochés de moi et cela m'a aidé. L'un a arrêté et l'autre a réduit sa consommation.
L'Agence nigériane de lutte contre la drogue indique qu'au cours des 3 dernières années, elle a saisi 7,6 millions de kilogrammes de drogues illicites telles que la cocaïne, l'héroïne, la méthamphétamine et le cannabis. Elle a aussi gagné des procès contre des trafiquants, selon son porte-parole Femi Babafemi.
Si l'on considère également le nombre de poursuites, l'agence a poursuivi et fait condamner plus de 9 000 personnes.
Selon un rapport des Nations Unies datant de 2021, le Nigeria comptera 20 millions de toxicomanes d'ici à 2030. Mais Ibrahim Idriss et certains de ses compagnons de consommation ont d'autres projets. Ils disent espérer obtenir de l'aide et retrouver une vie saine.
La délégation du Sénat de la Côte d'Ivoire se trouve actuellement à Chicago pour la Convention démocrate. Dilidiko et Trésor Matondo se sont entretenus avec la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara. Elle explique pourquoi il est important pour les pays africains de participer à cet événement.
C'est une occasion pour nous de rencontrer d'autres leaders de partis politiques venant de tous horizons, parce que vous avez des responsables politiques, des membres de la société civile aussi, mais qui viennent de pays d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, je dirais du monde entier. Donc c'est une opportunité de rencontre, d'échange et surtout de partage d'expériences. Et c'est le plus grand intérêt pour nous, c'est de savoir la vie politique américaine, comment est-ce qu'elle se déroule, le système politique américain, le processus électoral, et puis il y a d'autres thématiques dont nous allons parler aussi.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des enseignements de ce que vous avez vu qu'on peut tirer et transposer pour les démocraties africaines?
Absolument. Vous savez, l'objectif de nos pays, c'est de renforcer la démocratie, l'état de droit. Moi, je profite de l'occasion avec la délégation pour savoir, comme je l'ai dit, comment fonctionne le système politique américain, le processus électoral. Nous savons que, contrairement à, par exemple, la Côte d'Ivoire, ici, aux États-Unis, vous avez deux grands partis, même s'il y a des partis minoritaires, mais qui sont peu connus, alors que chez nous, vous avez une multitude de partis politiques. Vous savez, la Côte d'Ivoire est indépendante depuis seulement 64 ans, alors que les États-Unis ont plus de 200 ans de démocratie. Donc, nous apprenons aux côtés des Américains. Tous les pays au monde ont des défis. J'ai été surprise de voir que même ici aux États-Unis, ils ont un gros challenge en termes de participation des femmes au processus électoral. Peu de femmes s'engagent en politique. Nous pensions que c'était propre seulement aux pays africains, mais nous nous rendons compte que même dans un pays de grande démocratie comme les États-Unis, c'est aussi un défi. Donc, on a partagé l'expérience, elles nous ont expliqué un peu leur stratégie pour amener les femmes à avoir une plus grande participation en politique. Et je pense que cela pourrait nous aider.
Et pour le mot de la fin, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous allez retenir de cette convention démocrate à Chicago?
Ce que je retiens déjà de la convention des démocrates, c'est la mobilisation des délégués. Et ce que je retiens aussi, c'est la participation de tous les leaders démocrates, tous ces hommes et toutes ces femmes politiques qui étaient présents, ça c'est à noter. Et aussi, à travers les différentes interventions, on a vu que toutes les composantes de la population américaine sont prises en compte.
C'était Kandia Camara, présidente du Sénat ivoirien, en visite à Chicago.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Coup de projecteur sur la convention du Parti démocrate américain qui se tient actuellement à Chicago sur fond de manifestations pro-palestiniennes. La grand-messe est l'occasion pour les délégués d'officialiser l'entrée en lice de la vice-présidente Kamala Harris et de son colistier Tim Walz dans la course à la Maison-Blanche après le retrait du président Joe Biden. Le nouveau tandem affrontera le duo républicain Donald Trump à J.D. Vance dans les urnes le 5 novembre. À quoi faut-il s'attendre désormais des deux camps rivaux? Laissez vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h30.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe qui a permis la réalisation de ce journal. Je suis Yacouba Ouidraogo, à la réalisation Lionel Gaïma. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.